Comment se nourrir pour protéger sa santé en dépensant peu et sans participer à la dégradation de l'environnement? Le modèle méditerranéen a souvent été pris comme exemple d'une telle démarche et aujourd'hui nombreux sont les médecins et les scientifiques qui s'inspirent de cette pratique alimentaire. Mais qu'en dit justement la science et quelles sont dans le domaine de l'alimentation les idées reçues qu'il faut remettre en question? C'est l'objet de notre tête au carré dans un instant avec mes invités et vos messages. Vous nous rejoignez en direct sur franceinter.fr et sur les réseaux avec le mot-clé « l'attaque ». À la une de la science aujourd'hui, une mandibule, Axel Villard, qui vient modifier l'histoire du genre humain.
Deux molaires et trois prémolaires découvertes dans le nord-est de l'Éthiopie et qui reculent de quelques 400 000 ans l'apparition du genre Homo sur Terre. Vos questions pour le paléo-anthropologue Yves Coppens avec le mot-clé l'attaque sur Twitter.
Voilà pour le sommaire de cette nouvelle tête au carré qui est réalisée par Violaine Ballet et préparée par Anne-Cécile Perrin et Fanny Cohen-Moreau.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Michel Delorgerie et Sylvain Duval, bonjour à tous les deux.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue.
Bonjour.
Le régime méditerranéen, les idées reçues autour de l'alimentation, on en parle avec vous dans quelques minutes. Michel Delorgerie, ce régime méditerranéen, on l'appelle également le régime crétois, et dans les années 90, vous avez pu tester scientifiquement l'efficacité de ce régime. Qu'est-ce qui est ressorti de ces études ?
Alors, il est ressorti plusieurs choses. D'une part, on avait surtout utilisé les méthodes de la recherche clinique la plus élaborée, hein, pour éviter d'introduire des biais et évidemment de produire des idées fausses ou des idées reçues. Mais les résultats de cet essai clinique chez des patients qui avaient déjà fait un infarctus du myocarde, c'était une réduction extraordinaire, hein, presque pas crédible à l'époque, de 50 à 70% du risque de récidive. Et une autre information majeure, c'était qu'on avait moins de cancers dans le groupe qui avait adhéré à la diète méditerranéenne.
Et donc, en gros, c'est l'une des meilleures manières de manger au monde, hein, comme on le verra avec vous dans quelques instants. Sylvain Duval, il existe d'autres modèles alimentaires. Okinawa, par exemple, qui a été souvent cité avec l'étude des centenaires de cette île japonaise. Est-ce que vous confirmez les bienfaits de ce régime, vous qui vous battez contre les idées reçues?
Alors voilà, le régime d'Okinawa, il a un peu moins de preuves scientifiques que celui du régime méditerranéen. Et ce qui est intéressant, c'est de les comparer, de voir en quoi ils ont des similarités, par exemple sur les légumes colorés, qu'on va retrouver dans les deux modèles. Donc c'est intéressant de se pencher sur ce modèle d'Okinawa pour regarder aussi le régime méditerranéen.
Et beaucoup d'autres questions encore autour de l'alimentation avec les messages des auditeurs qui nous retrouvent en ce moment même. Et à la une de la science aujourd'hui, la date et les conditions d'apparition du genre Homo sur Terre qui se précisent.
Grand fleuve africain oublié, l'Homo parcourt un millier de kilomètres sur le plateau éthiopien avant de se jeter par ce delta extraordinaire dans le lac Rodolphe au Kenya. Dans sa basse vallée, il serpente en large méandre, accompagné d'une forêt riveraine qui cède vite la place à une savane très sèche. C'est là que se trouve le gisement de l'Homo.
Vous êtes reconnu, Yves Coppens? C'était vous.
Hein. Et avec émotion.
Voilà, en 1975. Voilà, on vous invite aujourd'hui parce que des chercheurs américains et éthiopiens viennent de publier dans les revues Nature et Science la découverte d'une demi-mâchoire qui en dirait long sur l'histoire de l'humanité. Elle serait la plus ancienne trace du genre humain, le premier homo, donc, hein, c'est ça. Ce qui nous recule de 400 000 ans, en tout cas la date supposée de l'apparition d'Homo sur Terre. Vous êtes paléo-anthropologue, découvreur de l'Australopithèque Lucie. Et d'ailleurs, c'est dans la même région de l'Éthiopie, hein, qui a été trouvé cette demi-mâchoire.
Ah oui, tout à fait, oui. C'est même plus joli que ça sur le plan poétique. En 1969, un collègue qui s'appelle Maurice Taïeb, qui est géologue, faisait sa thèse sur le bassin de la Wash. On ne connaissait absolument rien sur le plan paléontologique de l'Afar. Oui. Il est arrivé chez moi, si j'ose dire, au Musée de l'Homme, où j'étais à l'époque, avec une dent d'éléphant fossile. Et comme je connaissais bien les éléphants fossiles, je lui ai dit, c'est un éléphant qu'on appelle Reki, il a entre 2 et 3 millions d'années, ce qui l'a beaucoup frappé, parce que enfin, quand on a une expertise, on la pratique, hein, c'est pas extraordinaire. Et donc, ça s'est confirmé, et c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé cette exploitation du triangle, ce qu'on appelle le triangle de l'Afar, tout à fait extraordinaire, tout à fait fécond, tout à fait fertile, tout à fait plein de fossiles de toutes sortes, dont ceux qui ont été trouvés en 2013 et qu'on publie aujourd'hui.
C'est ça. Alors, quelle est l'importance de cette découverte, Yves Coppens ? Parce que c'est un recul donc, de 400 000 ans pour l'apparition du genre humain, qui passe donc de 2,4 millions d'années à 2,8. On pensait pouvoir en trouver d'aussi vieux ou pas ?
Oui, alors il y a toujours l'hypothèse, vous savez, que nous pratiquons volontiers dans les pays occidentaux qui sont moins pratiqués en Amérique, où on est vraiment au ras des données. Et on pensait depuis longtemps que l'homme pouvait avoir autour de 3 millions d'années pour une raison, pas en l'air comme ça, mais pour une raison simple de changement climatique.
Oui.
Quand on propose des choses de ce genre, ce ne sont que des propositions, il faut les tester. Et quand sur le terrain des collègues, des jeunes gens, trouvent la démonstration, à ce moment-là, ça devient véritablement scientifique. C'est-à-dire que ce bout de mâchoire qui n'a l'air de rien, avec ses quelques dents, est extrêmement important parce que de 2,4 millions avérés, on est à 2,8 millions avérés. Donc c'est tout à fait intéressant, tout à fait solide, et quand on a une démonstration, la science est heureuse.
Voilà, et c'est notre histoire que ça raconte.
Ah, c'est tout à fait notre
directement,
histoire.
Directement.
Oui. Ah oui, tout à fait notre histoire. Ça veut dire que l'homme est d'origine unique, ça veut dire qu'il est d'origine africaine, ça veut dire qu'il est d'origine tropicale, ça veut dire que c'est à partir de là que toute l'humanité s'est déployée à travers l'Afrique d'abord, l'Eurasie après, et l'Amérique ensuite, et l'Australie en même temps. Et c'est une grande histoire, en même temps scientifique et théorique.
Axel Villard.
À vous écouter, on devrait pouvoir en trouver des plus vieux, alors.
Oui, enfin, moi, j'ai toujours tendance à chercher plus anciens. J'avais un vieil ami au Musée de l'Homme qui est mort depuis longtemps, qui était un des deux premiers...
Quand vous dites un vieil ami, on peut s'attendre vraiment à quelqu'un de très vieux.
Hein. Oui, donc, attention à ce que vous dites. Ouais. Qui est mort depuis longtemps, quand même.
Ouais.
Et qui était un des deux premiers sous-directeurs du Musée de l'Homme. Et il me disait, au fond, toi, quand tu avances, tu recules. Et c'est ce que
c'est
ça veut dire.
C'est ce puisqu'on que ça repousse veut dire. Encore. Ouais.
Alors, on repousse encore jusqu'à certaines limites, parce que les limites dépassées, ça n'aurait plus de sens. Il y a quand même une certaine cohérence dans cette histoire. On ne peut pas faire des genres humains à 10 millions d'années. Mais ceci dit, un genre humain qui a 2,8 millions au lieu de 2,4 millions et qui pourrait avoir autour de 3 millions d'années, c'est dans la cohérence.
Yves Coppens, cette mâchoire, donc, elle ressemble beaucoup à ce qu'on connaît évidemment du genre homo, mais aussi avec des caractéristiques australopithèques. Alors ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on peut parler de ce fameux chaînon manquant ou pas ?
Ben, on peut toujours en parler, parce que la paléontologie, finalement, c'est la science de la recherche des chaînons qui manquent. Donc, à chaque fois qu'on trouve un fossile nouveau, c'est un chaînon de moins qui manque. Ceci étant dit, comme on connaît pas mal, de mieux en mieux, le vivier de formes préhumaines qui précède l'homme, et au cœur duquel on trouvera un jour véritablement l'ancêtre de l'homme, on cherche les filiations. Le fait qu'il y ait des éléments intermédiaires est évidemment extrêmement précieux, parce que cet ancêtre à l'origine directe de l'homme, on ne l'a pas véritablement identifié.
Alors, quelles caractéristiques d'ailleurs, homo et australopithèque, sur cette mâchoire ?
Ben, l'australopithèque, en l'occurrence, est un personnage qui est essentiellement végétarien, majoritairement végétarien.
Donc c'est Lucie, on le rappelle.
C'est Lucie, par exemple. L'homo habilis, pour des raisons environnementales et donc des nécessités, s'est mis à manger aussi de la viande. Aussi de la viande parce qu'il y avait moins de végétaux. C'est pas par gourmandise, c'est par nécessité. Et ceci a transformé ses dents en ce sens que les dents d'un omnivore, et en particulier les dents d'un carnivore, ne sont pas les dents d'un herbivore. Enfin, c'est pas tout à fait herbivore, mais végétarien. Et donc, en ce sens, si on a là quelques intermédiaires, ça va éclairer beaucoup les filiations. Et comme vous savez, les paléontologues sont obsédés par deux choses. la datation et la filiation.
Bon, c'est pas tout à fait le régime crétois, mais enfin, il y a déjà quelque chose qui tend vers. Axel, pour terminer.
Quand on observe 5 dents comme ça, au microscope, on peut en déduire un régime alimentaire ?
Beaucoup de choses. On peut en déduire beaucoup de choses par la morphologie de la dent. Je vois mon compère d'en face,
Sylvain Duval,
qui acquiesce et qui a été élève de
Michel Brunet.
Michel Brunet, et qui est un collègue. Donc on est un peu dans le même bateau, si je puis dire. Donc la morphologie dentaire, d'abord, va indiquer ce que mange le personnage. Si on fait une microscopie électronique de la surface dentaire par les rayures, les usures, on verra s'il mange plus de viande que de végétaux ou inversement. Si on arrive à l'intérieur de l'os lui-même et de la dent elle-même, la microscopie de l'émail, par exemple, les microstructures de l'émail, donnera aussi des informations sur le mode de vie, le comportement et l'environnement. Et si on va encore plus profond, on trouvera des isotopes instables comme isotopes stables, pardon, comme le carbone ou l'azote, qui donneront encore des idées plus précises.
Donc on en lit des choses dans les
dents. Sur ce que manger. Tous les objets ont beaucoup de mémoire, mais l'essentiel est de connaître cette mémoire et savoir la lire.
Merci beaucoup Yves Coppens pour vos précisions sur cette découverte toujours fascinante, évidemment, puisqu'on le disait, c'est notre histoire qu'elle raconte, la plus ancienne trace donc, du genre humain pour l'instant, 400 000 ans, donc qui nous fait reculer de 400 000 ans à 2,8 millions d'années. Merci beaucoup Yves Coppens d'être venu cet après-midi dans la tête au carré. Merci. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, ce sont les plus petites bactéries vivantes qui viennent d'être découvertes. 150 000 d'entre elles pourraient tenir sur la pointe d'un cheveu. Les scientifiques ne pensaient pas trouver d'aussi petites bactéries. Des chercheurs de l'université de Berkeley en Californie ont observé ces micro-organismes incroyablement petits dans l'eau souterraine de la ville de Riffle dans le Colorado. On ne connaît presque rien de ces bactéries, pourtant elles seraient relativement courantes dans de nombreux écosystèmes. Des crevettes pour mesurer la pollution, c'est le projet d'une société française, Biomae, c'est son nom, les gammas, de minuscules crevettes d'un centimètre de long, ont la particularité d'être sensibles aux contaminants présents dans l'eau, comme les polluants émis par l'agriculture. Leurs observations permettraient de mieux mesurer l'impact des polluants sur les écosystèmes des rivières. Et puis pour terminer, l'astéroïde Cérès, bientôt en vue, la sonde Dawn de la NASA sera demain à 38 000 km du plus gros des astéroïdes de la ceinture principale entre Mars et Jupiter, tellement gros d'ailleurs qu'il est considéré comme une planète naine. On ne connaît pas grand-chose sur Cérès, les observations de l'engin spatial vont permettre d'en savoir plus sur les étranges points brillants repérés il y a quelques semaines à la surface de la planète naine. Allez, régime méditerranéen, alimentation et santé, c'est dans un instant le dossier de la tête au carré.
Transperce la chair de tes flancs, tu disparais dans les courants.
Isia avec la vague.
Dans cette émission, on vous vante souvent les mérites du régime crétois. Eh bien, une étude espagnole, la plus vaste jamais menée, confirme aujourd'hui les bienfaits de ce régime. Une alimentation riche en huile d'olive, en noix, en poissons, en fruits, en légumes et puis un petit peu de vin réduit de 30% le risque de développer des maladies cardiovasculaires.
Oui, cette recherche clinique publiée dans le New England Journal of Medicine a été menée en Espagne pendant près de 5 ans sur près de 7500 personnes, toutes à risque cardiovasculaire, des hommes et des femmes âgés de 55 à 80 ans.
Voilà, extrait de l'émission Allô Docteur sur France 5, c'était en août 2013. La diète méditerranéenne, les modèles alimentaires, les idées reçues. Donc c'est le thème de l'émission cet après-midi avec mes invités. Michel Delorgeril, vous êtes médecin chercheur en nutrition au CNRS et vous publiez Le nouveau régime méditerranéen pour protéger sa santé et la planète. C'est aux éditions Terre Vivante. Et puis Sylvain Duval, vous êtes membre de l'association Formindep et administrateur de l'association de diététique et nutrition critique. Et vous êtes l'auteur du livre Guide des aliments contre les idées reçues aux éditions du Cherche Midi, un livre 100% indépendant. C'est ce que vous nous dites directement en couverture. On en parlera avec vous tout à l'heure et puis on répondra aux messages des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Michel Delorgeril, à quel moment vous avez entamé vos recherches scientifiques justement sur le modèle alimentaire méditerranéen?
Alors c'était à Lyon avec une équipe de l'INSERM qui était dirigée par Serge Renaud et c'est la mise en place du protocole, c'est le milieu des années 80.
Ouais. Donc à l'époque on parlait du régime crétois, enfin les deux termes sont exacts. Hein.
Oui bien sûr, mais maintenant je pense qu'on doit même parler d'un régime méditerranéen parce qu'on a beaucoup progressé dans la connaissance des habitudes alimentaires des différentes populations méditerranéennes, nord, sud, est, ouest, etc. Ouais. Et on ne peut pas restreindre ce concept à celui de crétois.
Ouais. Comment on entame une telle étude? D'abord, comment ça a été reçu dans le milieu scientifique? Parce que la démarche est très intéressante.
Alors, elle a été reçue plutôt très favorablement par les cardiologues parce que pour la première fois dans l'histoire de la médecine, on pouvait démontrer une réduction magistral du risque cardiovasculaire et par une intervention qui n'était pas médicamenteuse.
Hein,
puisque dans les deux groupes qui étaient testés dans cette étude, le cholestérol était exactement le même, mais d'un côté, il y avait 70% de moins d'accidents cardiovasculaires, aussi bien infarctus que insuffisance cardiaque, que accident vasculaire cérébral.
Ouais. Ça vous a surpris ces résultats à l'époque?
Oui, très très.
Ils ont été très commentés. Hein.
Ils ont été très commentés et il y avait différentes façons de voir les choses. Et puis, année après année, ces résultats ont été confirmés. Mais vous voyez, en 2013 encore.
Il y a plein d'études en fait qui continuent toujours. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il y a du nouveau à apprendre en
permanence? Oui, bien sûr. Et surtout parce que l'idée, c'est que les Méditerranéens ou les Français, bon, les Français sont en partie méditerranéens, en tout cas dans le sud de la France, répondent à ce type d'intervention nutritionnelle. Mais un Américain, un Australien, un Scandinave, est-ce qu'il répond aussi? La réponse, on l'a. Oui, ils répondent exactement de la même manière. Ils se protègent en adoptant ces habitudes alimentaires qui sont très spécifiques.
Qu'il faut
moderniser.
Sylvain Duval, justement, vous le citez aussi, ce régime méditerranéen.
Bien sûr. Hein,
vous ne les citez pas tous, parce qu'il y en a beaucoup des régimes, mais celui-là, comme le régime d'Okinawa, vous paraissent intéressants.
Le régime méditerranéen, c'est le régime principal, c'est celui vers lequel les preuves scientifiques convergent. C'est vraiment le modèle à prendre en cause, qu'il faut vraiment utiliser. Et les autres régimes à côté permettent aussi de comparer, donc de voir qu'à Okinawa aussi, il y a beaucoup de végétaux, peu de viande et puis des légumes très colorés, c'est-à-dire très riches en substances protectrices.
Alors, les auditeurs nous disent, comme Luc, qu'il y a beaucoup d'écoles différentes sur la nutrition et que c'est parfois très difficile de s'y retrouver. Végétarisme, Okinawa sont souvent décrits comme plus sains que le régime méditerranéen. Comment choisir, dit Luc, entre ces trois écoles sensiblement différentes mais fortement fondées à la fois par les sciences et par l'expérience?
Oui, ça c'est une très très bonne question et effectivement, nous on se la pose tout le temps, on est des scientifiques, on est dans le scepticisme et la prudence.
Et le doute.
Et donc la principale démarche, c'est d'identifier les travaux scientifiques les plus solides et de regarder, comme dit Sylvain, de quelle manière ça converge. Oui. Alors on ne dit pas que le régime méditerranéen modernisé, c'est le seul régime protecteur, mais c'est en tout cas le seul régime pour lequel on est vraiment démonstration scientifique robuste. Et qui résiste en fait à toutes les critiques que l'on a pu faire avec le temps.
Et pour ceux qui nous rejoignent, on parle bien de modèle alimentaire et pas de régime pour maigrir. Hein. Ce n'est pas l'objet de notre discussion.
C'est très important.
Évidemment.
Un régime, c'est quelque chose de restrictif, c'est quelque chose qui est un peu une punition. Oui. Tandis qu'un modèle alimentaire, c'est une façon de vivre, c'est une façon de faire ses courses, c'est une façon de... Mais c'est aussi une façon de produire les aliments.
C'est ça.
C'est aussi un mode de vie, ça dépasse l'alimentation en fait. C'est plus large que ça.
Comment on met au point justement une telle expérience scientifique? C'était le cas donc à l'INSERM de Lyon. On fait manger des patients de façon méditerranéenne pendant plusieurs années?
Exactement, oui. Ouais.
Les gens se tiennent à cela?
Alors voilà, vous avez mis le doigt sur toutes les difficultés de ce genre d'études. Il faut un protocole, il faut un modèle alimentaire qui soit adapté à la population. Ouais. Je vais vous donner un exemple très simple. À des patients lyonnais qui avaient fait un infarctus, donc qui avaient frôlé la mort, vous ne pouviez pas changer leurs habitudes alimentaires sans leur donner un bon argumentaire et sans les séduire en quelque sorte.
Ouais.
Un lyonnais classique, il mange du beurre, il mange des charcuteries et pas l'huile d'olive. Donc pour essayer d'adapter notre modèle méditerranéen à ces patients difficiles, il a fallu inventer. Et une des inventions, par exemple, que nous avons appliquées, c'est que puisque l'huile d'olive risquait de déplaire, on pouvait aussi utiliser un substitut à cette huile, c'était l'huile de colza.
Oui.
Et donc, on a proposé à nos patients d'utiliser l'huile de colza. Et ça s'est avéré une technique efficace, puisque ça a marché. Ils ont vraiment eu moins d'infarctus.
Et vous en avez eu 600 quand même des patients. Hein.
Alors 600, c'est les patients qui ont été tirés au sort.
Ouais.
Bien sûr, plus de 600 même.
Des candidats, au départ, il y en avait 1000 à peu près, c'est
voilà,
ça.
Voilà, il y en avait à peu près 1000 au départ. Et puis, pour toutes sortes de raisons, on voulait qu'ils aient moins de 70 ans. Aujourd'hui, on prendrait tous ceux jusqu'à 80 ans. Hein, parce que maintenant, on sait que les personnes âgées aussi profitent de ce type de régime. Je pense que c'est un point très, très important. Je vais insister une seconde. C'est qu'il n'est jamais trop tard pour adopter ce type d'habitude alimentaire. Hein. Pratiquement, en quelques jours, on peut totalement changer son pronostic. On a fait un infarctus, on a peur d'en refaire un, et le deuxième, il risque d'être fatal. Eh bien, c'est urgent de changer ses habitudes alimentaires parce que c'est la méthode la plus efficace pour se protéger.
Et donc, Sylvain Duval, on peut considérer que l'alimentation nous soigne. Hein, on le savait quand même un petit peu, mais ça se confirme.
Voilà, mais il faut faire attention à ne pas partir sur les alicaments, par exemple. Parce que l'industrie, ce qu'elle aimerait bien, elle, c'est faire des petites gélules qu'elle va pouvoir vendre à prix d'or en mettant en avant telle étude, en disant, tenez, dans tel aliment, on trouve telle chose, dans le brocoli, on va trouver telle chose, on va en faire une gélule. Et justement, là, on trouve souvent dans les études que ça ne marche pas, en fait, que la gélule n'est pas aussi efficace que l'aliment
Pourquoi
entier. Alors, c'est tout simplement le concept de la synergie. Quand on isole l'élément, on l'isole de sa matrice, on l'isole de tous les autres molécules protectrices. Et très souvent, là, il y a des études qui le décrivent, on a un effet qui est inférieur en réalité.
Ouais. Vous évoquez dans votre livre, Michel de Lorgeril, Ansel Keys. C'est un biochimiste américain qui s'est rendu célèbre dans les années 50 aux États-Unis pour avoir conçu les fameuses rations K dont se nourrissaient les GIs et les Marines pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est lui qui a ébauché ce concept de diète méditerranéenne au départ.
Oui, on peut vraiment lui reconnaître cette invention du concept de diète méditerranéenne, puisque on dit diète plutôt que régime parce que c'est la traduction de Mediterranean Diet. Hein. Et c'est lui qui le premier a observé pendant la guerre que certaines populations méditerranéennes, pas simplement les Crétois, mais aussi à Corfou et aussi dans le sud de l'Italie, ils ne connaissaient pas l'infarctus.
Ouais.
Et donc il s'est dit, c'est peut-être ça le secret de la longévité. Malheureusement, Selkis s'est un peu trompé par la suite, c'est-à-dire qu'il a attribué les bénéfices de la diète méditerranéenne au cholestérol, à la diminution du cholestérol. Et là, il s'est complètement trompé, malheureusement.
Ouais. On va l'écouter, extrait d'un documentaire sur le régime crétois.
Cette étude se poursuit depuis maintenant 38 ans. Elle apporte des données intéressantes sur la relation entre l'alimentation des gens, leur activité physique et les décès par maladies cardiovasculaires et cancers. Les conclusions de cette étude ont suscité un intérêt international. On peut maintenant dire que le régime crétois est connu dans le monde entier comme étant le meilleur pour prévenir les maladies et rester en bonne forme.
Voilà, le biochimiste Ansel Keys. Pourquoi justement la théorie du cholestérol et la diète méditerranéenne sont incompatibles ?
Ah ouais, alors ça c'est justement, par exemple, dans notre étude, on a vu que le cholestérol est exactement le même dans le groupe témoin et dans le groupe expérimental, et pourtant le pronostic était complètement différent. Mais il y a d'autres façons de voir les choses. Par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est celui de la consommation d'alcool. Quand vous consommez de l'alcool, vous augmentez votre cholestérol, et pourtant la consommation d'alcool, modérément, attention, ouais, modérément, de préférence du vin, pendant les repas, etc. Vous connaissez la chanson. Eh bien, c'est associé à une diminution du risque cardiovasculaire. Donc, diète méditerranéenne, ça comporte, pas obligatoirement, là on peut moderniser, on peut adapter le modèle aux populations contemporaines. Ça augmente la consommation de vin, augmente le cholestérol et pour autant diminue le risque cardiovasculaire.
Christine, sur franceinter.fr, j'ai vécu 14 ans avec un Crétois, dont 5 en Crète, et je n'ai jamais cessé ce type d'alimentation. Avantage pour le porte-monnaie, peu de viande, beaucoup de légumineuses, légumes, fruits, etc. On va en parler tout à l'heure. J'ai gardé le même poids de 23 ans à 40 ans, 62 kilos pour 1m78. Bravo à elle.
Bravo Christine.
On se retrouve dans un instant avec beaucoup d'autres messages pour vous sur La Tête au Carré. I belong to you, avec Lenny Kravitz, à l'instant sur France Inter. Dans La Tête au Carré, nous parlons du nouveau régime méditerranéen. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, avec Michel de Lorgeril qui publie un livre sur la question aux éditions Terre Vivante, et puis Sylvain Duval avec le guide des aliments contre les idées reçues, c'est aux éditions du Cherche Midi. Sylvain Duval, vous faites partie, donc je le rappelle, du forum INDEP et de l'association de diététique et nutrition critique, et vous revendiquez donc le caractère indépendant de votre ouvrage. C'est une démarche plutôt assez rare dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition, où les conflits d'intérêts sont très nombreux.
Alors voilà, il existe une loi, en fait, depuis quelques années, qui oblige les professionnels de santé, quand ils s'expriment dans les médias, à déclarer leurs conflits d'intérêts. Enfin, en fait, leurs liens d'intérêts. Oui. Et en fait, on se rend compte qu'aucun aucun journaliste ne pose la question, ou alors vraiment c'est très rare et c'est très bien quand ça arrive, et mmh. les gens en général cachent leur appartenance à différentes structures qui sont soit des lobbies, soit des industriels.
Ouais. Donc ça c'est gênant quand les scientifiques ont des liens avec l'industrie par exemple.
Alors c'est gênant parce que ça apporte un biais, en fait là il y a des études sociologiques qui montrent que les personnes qui ont travaillé avec l'industrie vont biaiser leurs résultats, mmh. enfin, elles ne le font pas activement, en tout cas les résultats sont trouvés comme biaisés, et on sait que c'est un marqueur en fait de doute par rapport à l'étude. Ou alors, il faut vraiment que la personne dise la première chose qu'elle a à dire, voilà, je travaille avec telle industrie. Donc moi, je peux dire, là, actuellement, je ne travaille avec aucune industrie, et ma pensée critique, les choses que j'ai enquêtées sont surtout basées sur l'ANSES, mm-hmm. notre agence de sécurité alimentaire.
Donc là, vous avez synthétisé beaucoup d'informations, justement, beaucoup, ouais. hein, autour de la santé et de l'alimentation, précisément.
Voilà, il y a de nombreux rapports, donc des rapports qui sont sortis, par exemple, sur les graisses, un sujet qui m'intéresse énormément.
Ouais.
Récemment, l'année dernière, c'était sur les phytostérols, donc les margarines aux phytostérols, qui sont soi-disant en fait pour faire baisser le cholestérol et qui n'ont aucun intérêt pour la santé, l'ANSES le dit, voire même parfois une certaine toxicité pour une maladie rare, je ne sais pas si je ne vais pas donner le nom à l'antenne. Et puis là, en janvier 2015, c'est sur les édulcorants. Les édulcorants n'ont aucun intérêt pour la santé et peut-être aussi une toxicité.
Ouais, Michel de Lorgeril, vous le confirmez sur les édulcorants ?
Oui, tout à fait.
Ouais.
Toxicité, sur le plan scientifique, c'est très difficile de montrer la toxicité de ces substances.
Pourquoi ?
Ben parce que vous ne pouvez pas faire des études de toxicité chez les humains, hein, donc ce sont forcément des études chez les animaux, mmh. et ce sont des études où on utilise des doses astronomiques, souvent en tout cas très importantes, et que évidemment on ne peut pas appliquer chez les humains. Donc on peut toujours vous dire qu'à la dose utilisée communément par le citoyen lambda, ça n'est pas dangereux. Donc c'est pas un bon argument, bien sûr, hein, à partir du moment où on montre un certain degré de toxicité dans un certain modèle mmh. expérimental, ça veut dire que c'est toxique.
Hélène nous dit sur franceinter.fr, j'adore l'Espagne, j'y passe toutes mes vacances, mais je n'ai jamais vu autant de femmes obèses sur la plage. Vous parlez quoi du régime méditerranéen ?
Eh oui, mais ça c'est tout à fait vrai, c'est une observation tout à fait exacte. Les Méditerranéens sont en train d'abandonner leurs habitudes alimentaires et en conséquence, on voit leur état de santé se dégrader à une vitesse accélérée. C'est vrai pour l'obésité chez les enfants, c'est vrai pour les maladies cardiovasculaires, notamment en Afrique du Nord, c'est mmh. vrai pour le diabète en Espagne, c'est vrai pour l'obésité. Ouais. Et donc ça, c'est presque une contre-preuve.
C'est ça,
hein,
ouais.
C'est-à-dire, on abandonne un modèle qui marche.
Traditionnel, qui marche,
et on tombe malade. Et c'est pour ça qu'il est très important d'aider ces populations. Et pour aider ces populations, c'est peut-être pas retourner au modèle traditionnel, c'est d'adapter le modèle traditionnel aux conditions d'existence mmh. moderne.
Sylvain Duval, c'est ce qu'on voit en Crète d'ailleurs, hein. les problèmes de surpoids aussi, ils existent là.
Les jeunes générations maintenant sont touchées par ce changement d'alimentation brutal. On parle de transition alimentaire dans beaucoup ouais. de pays qui autrefois avaient une agriculture vivrière et puis un modèle ouais. traditionnel.
Au Japon aussi d'ailleurs, hein, certainement, Michel Delorge, puisque vous connaissez le pays.
Oui, on est allé en mission au Japon. C'est moins évident au Japon, mais on va prendre par exemple Okinawa, c'est net, on voit le changement au niveau des générations, les jeunes sont beaucoup plus gros que les plus anciens, et quand on mesure les paramètres, c'est assez extraordinaire, puisque en principe, vous savez, pareil, on prend un paramètre comme le glucose augmente un petit peu avec l'âge, et bien là c'est exactement le contraire, on a le paradoxe, c'est-à-dire que ce sont les jeunes qui ont le glucose dans le sang le plus élevé, donc ils sont résistants à l'insuline, beaucoup plus que leurs parents et grands-parents. Donc il y a une inversion des tendances qui est catastrophique.
Julie nous dit, lorsqu'on vit dans le nord de l'Europe, comment suivre un régime méditerranéen en consommant des fruits et légumes de saison cultivés à proximité, car vous l'aurez compris, afin de limiter l'empreinte carbone, c'est ce qui m'intéresse.
Ben c'est une très très bonne question, là, il est urgent de lire.
On est dans le cœur de votre livre.
Voilà, c'est exactement
ça. Voilà, parce que c'est nourrir pour protéger sa santé, mais à un coût acceptable et sans dégrader l'environnement tant qu'à faire.
Voilà, deux éléments très très importants, il faut que ce soit acceptable pour les petits budgets, il faut que ce soit acceptable pour les familles, et là, le régime méditerranéen s'y prête très bien, parce que...
Oui.
On va prendre l'exemple des produits animaux. Si vous voulez avoir du bio, c'est-à-dire ne pas avoir les contaminants, les pesticides, etc., dans une bonne viande rouge, vous allez la payer très cher. Mais le régime méditerranéen, c'est justement ne pas manger de viande rouge, ouais. ou juste...
Il y en a un petit peu.
Un petit peu, oui. Allez, les jours de fête, si on veut.
Mais
en tout cas, pas deux repas de viande rouge par jour. C'est le modèle américain, ça. Et par conséquent, il faut trouver quand même ces protéines que la viande apporte. C'est une très bonne protéine, la viande. Mais on y arrive avec le régime méditerranéen, par exemple avec les œufs, avec les poissons, ou avec les plantes. Et il ne faut pas oublier le mélange céréales plus légumineuses. Avec ça, céréales plus légumineuses, vous avez des protéines de qualité égale à celles des protéines animales.
Et vous avez le secret crétois.
L'alimentation crétoise pour nous, c'est la cuisine traditionnelle. Légumes secs, plantes sauvages et peu de viande.
Des fèves, du raquis, des escargots, les tomates et les concombres.
De l'huile, du vin, des raisins secs, tout est bon.
Voilà, Sylvain Duval, un petit aperçu en tout cas de cette diète méditerranéenne.
Tout à fait. Par exemple, on dit pas très souvent que les soja ou les pois et les haricots sont même plus riches en protéines que la viande.
Ouais. Pourquoi adapter donc ce régime aujourd'hui, Michel de Lorgeril ?
Bien, il faut l'adapter.
On ne peut pas se nourrir exactement comme
non,
on l'entend.
Non,
là.
Il y a plusieurs circonstances. D'abord, les conditions d'existence des gens sont telles. Vous voyez, vous venez de passer un reportage sur un paysan crétois, mais malheureusement, en France, il n'y a pas beaucoup de pâtres grecs. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de pêcheurs siciliens. Et donc, il faut proposer aux populations qui vivent dans des banlieues ou en zone suburbaine des conditions d'alimentation. Alors, il y a des solutions. Hein, il ne faut pas non plus être trop catastrophiste.
Par exemple,
il y a des solutions.
Vous pensez à quoi ?
Eh bien, la première chose, c'est de bien comprendre le régime méditerranéen. Ça, c'est la priorité des priorités. Puis ensuite, l'adapter aux conditions d'existence et aux aliments qui nous sont proposés. Alors, il y a une caractéristique majeure des aliments qui nous sont proposés aujourd'hui, c'est qu'ils sont très souvent contaminés. Y compris les céréales, par exemple. Avec les céréales, vous allez avoir les hydrates de carbone, mais vous allez avoir aussi les pesticides, vous allez avoir le cadmium.
Et dans le régime méditerranéen, il y a beaucoup de blé, par exemple.
Et
on consomme énormément de pain.
Et bien, exactement. Ouais. Ben, il y a le blé dans certains pays, le couscous ailleurs. Et
donc
puis
ça, on essaie d'éviter
Italie.
Dans cette nouvelle version.
Non, il ne faut pas l'éviter, mais par contre, il faut aller chercher. Non, il faut sélectionner des aliments bio. Ça, c'est vraiment fondamental. Il faut des blés qui soient bio. Ça ne suffit pas. Alors vous voyez, il y a deux adaptations successives. Premièrement, il faut conserver les céréales, parce que c'est 50% des apports énergétiques dans le régime méditerranéen, donc c'est très important. Deuxièmement, il faut du bio, parce qu'on ne veut pas les pesticides avec. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi sélectionner des blés anciens. Pourquoi ? Parce que les blés nouveaux ont été modifiés génétiquement par des techniques artisanales au cours des 50 dernières années, ce qui fait que les protéines qui sont dans le blé aujourd'hui ne sont pas connues en général de notre système immunitaire. Et vous avez une véritable épidémie aujourd'hui de ce qu'on appelle non pas la maladie cœliaque, mais des...
Sur le gluten hein.
Sur le gluten ou sur les protéines du blé. On ne sait pas très bien quel est le problème. Hein. En fait, il y a une espèce de résistance du corps médical et des nutritionnistes. Oui. Mais par contre, les patients, eux, ils savent ce que c'est, la sensibilité au gluten. Et donc, une des solutions pour à la fois avoir le régime méditerranéen, ne pas avoir les pesticides et le cadmium, et quand même avoir son blé, c'est de retourner vers des espèces de blé traditionnelles anciennes.
Sylvain Duval, vous confirmez aussi dans les études que vous avez pu lire.
Voilà, ça montre que le sujet est quand même très compliqué, qu'il faut l'aborder vraiment différemment. Donc, le livre de Michel de Lorgeril, c'est vraiment un livre de 500 pages qui va vraiment tout vous expliquer, alors que dans le mien, c'est plus pour des gens qui, par exemple, n'ont pas encore lu beaucoup et qui découvrent le sujet. Et c'est pour ça que j'ai vraiment ramassé beaucoup de pistes et que j'ai essayé de faire quelque chose de très synthétique, pratique, voire amusant, parce qu'on peut picorer, passer d'un mot à l'autre. Donc, il y a vraiment deux ouvrages qui permettent de s'initier aux choses très importantes que le docteur vient de dire.
Bon, c'est bien, vous faites votre réclame pour présenter les deux ouvrages. Merci beaucoup à vous. Pierrick nous dit ceci, du poisson dans le régime crétois, oui, mais quid de la contamination de la chair du poisson, le plomb, les autres petites plaisanteries qui risquent bien de changer le résultat de l'analyse à long terme ou à court terme. Alors ça, c'est un gros problème aussi.
C'est un énorme problème et je pense que...
Parce qu'on préconise de manger du poisson et des crustacés.
Bien sûr, on l'a dit longtemps et aujourd'hui, on ne peut plus le dire. Et même dans certains pays, on déconseille de donner du poisson aux femmes enceintes et aux enfants. Vous voyez, le degré de contamination admis par les autorités sanitaires dans de nombreux pays. Ouais. En plus, en Crète, il n'y a plus de poissons. À la mer Égée, il n'y a plus de poissons. Donc, de toute manière, on ne pourra pas manger. Il n'y a plus de poissons en Méditerranée. Je crois que cette année, pour le thon rouge, la permission de la communauté européenne était un ou deux jours de pêche.
Ouais. Dans notre livre, en tant que consommateur, on doit en tenir compte aussi, d'ailleurs, de ces paramètres écologiques et sur l'épuisement des ressources.
C'est l'épuisement des ressources et le peu qui reste sont contaminés. Et vous savez, dans le livre, on raconte justement que, bon, d'accord, il n'y a plus de thon rouge en Méditerranée, mais il reste quand même les anchois sur les côtes pacifiques du Pérou. Eh bien, il y a deux mois à peu près, on a eu une nouvelle épouvantable venant justement de cette région. Il n'y a pas d'anchois cette année sur les côtes du Pérou. Et donc, comme ces anchois qui ne sont pas mangeables par les humains parce qu'il y a trop d'arêtes, etc., mais qui servent à faire les granulés pour les fermes marines, on va avoir là de très gros problèmes économiques au niveau des fermes marines.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de l'émission et beaucoup d'autres messages pour vous sur franceinter.fr. Fear is Blue avec Ifeanyi Fenn. Le médecin-chercheur Michel de Lorgerie est avec nous pour nous parler du nouveau régime méditerranéen pour protéger sa santé et la planète. Tant qu'à faire, c'est aux éditions Terre Vivante. Et puis Sylvain Duval avec le guide des aliments contre les idées reçues. Laure nous dit ceci, se préoccuper des risques cardiovasculaires, c'est très bien, mais on ne meurt pas que de ça. La diète méditerranéenne protège-t-elle également du cancer, de la dégénérescence du cerveau?
Mais bien sûr,
quand dit la science.
Bien sûr, voilà. Alors, par exemple, dans l'étude de Lyon, on a montré qu'il y avait moins de cancers dans le groupe expérimental. D'autres études l'ont complètement confirmé.
Tous les cancers?
Oui, je pense qu'on peut dire, sur les études d'observation qui ont été publiées ultérieurement, pas dans l'étude de Lyon, il y avait trop peu de cancers pour parler de tous les cancers dans cette étude, il y avait trop peu de patients, mais en général, les populations qui suivent bien les habitudes alimentaires méditerranéennes ont moins de cancers, de tous les cancers, en particulier les cancers du sein. Comme vous savez, le cancer du sein, c'était une espèce de catastrophe clinique qu'on a à l'heure actuelle dans nos sociétés. Hein. Une Américaine sur 6 sur 7 va faire un cancer du sein. Et donc, pour le moment, on voit bien qu'il y a certains médicaments qui favorisent le cancer du sein. Et puis, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, là, sont associés de manière très, très forte avec le cancer du sein. Et inversement, la diète méditerranéenne, c'est les habitudes alimentaires pour se protéger.
Donc, c'est toute la question de l'espérance de vie en bonne santé aussi.
L'espérance de vie. Alors pour oui, parce que il est important aussi de protéger ses neurones. Et on a vraiment des données très, très importantes concernant la maladie d'Alzheimer, les méditerranéens. Qui suivent, qui gardent leurs habitudes alimentaires.
Sont moins touchés
par la maladie d'Alzheimer et les autres
très démences. Sensiblement.
Oh oui, c'est hautement significatif. Oui.
Sylvain Duval.
Oui, en fait, dans la science de la nutrition, c'est quand même une science qui est assez jeune, qui a du mal à trouver des preuves solides, parce qu'on ne peut pas construire des protocoles aussi rigoureux qu'avec le médicament. Ouais. Et donc, on essaye de montrer que dans les molécules protectrices qu'on découvre, parce qu'en fait, on est au bord d'un monde dans lequel on vient juste d'entrer là, dans ce siècle. Par exemple, le monde des polyphénols, qui est vraiment un monde à découvrir. Et de plus en plus, la science va apporter des informations supplémentaires sur les interactions. Et moi, je dis qu'on ne peut pas être en bonne santé sur une planète qui est malade. Donc, il faut vraiment qu'on découvre tous ces trésors de bienfaits qui sont dans des régimes traditionnels et dans des plantes.
Victor sur Facebook nous dit, est-ce que le régime méditerranéen est compatible avec le sport de haut niveau ?
Mais bien sûr, le sport de haut niveau, c'est une alimentation particulière je ne recommanderais pas forcément le sport de haut niveau pour rester en bonne santé.
C'est un peu compliqué.
Oui, c'est un peu compliqué. Et puis en plus, les sportifs de haut niveau sont souvent eux-mêmes contaminés par toutes sortes de pollueurs. Mais si on considère les apports énergétiques de la diète méditerranéenne, tout à fait. Ouais. Il faut des hydrates de carbone pour alimenter les muscles et le cerveau, et la diète méditerranéenne les apporte.
Eh bien, on va écouter un Crétois qui lui aussi pratique le sport à son niveau.
Il n'y a pas de secret. C'est la manière dont on mange. D'abord, en priorité, c'est l'huile. Cette huile très pure que nous avons. 2 grammes d'acidité. Puis, il y a les légumes. Nous, des produits chimiques, on n'en met pas. Nous mangeons des choses pures. C'est pour ça que nous avons une vie plus longue.
On mange sain. On ne fume pas. Et on ne boit pas d'alcool. Seulement du vin et un tout petit peu. Chaque jour, je marche pour que le sang circule. Je vais dehors, je fais des petits tours et je rentre à la maison. Le sang circule davantage et moi je vais mieux.
Les petits tours, ça change tout, Michel Delorgerie.
Oui, l'exercice physique, c'est vraiment un élément fondamental des habitudes alimentaires qui nous protègent. Oui. Mais bon, c'est un élément par rapport au régime méditerranéen. Mais c'est vrai que si vous avez de l'activité physique, vous allez manger plus que si vous êtes un sédentaire et vous avez plus de chances d'absorber les nutriments qui vous seront favorables.
Alors c'est ça, évidemment, à l'heure de la voiture, il faut faire attention aussi aux proportions et aux apports énergétiques de ce qu'on mange.
Tout à fait.
Ça, c'est la règle.
Il n'y a pas que la voiture, il y a aussi les heures passées devant les écrans, les heures passées dans le canapé, etc. Et ça fait partie des modes de vie qui sont délétères, certainement.
Alessandro nous dit sur franceinter.fr, l'huile d'olive est toujours mise en avant comme essentielle dans les régimes, mais est-ce qu'elles se valent toutes? Et qu'en est-il de l'huile d'olive chauffée utilisée pour faire cuire des aliments?
Alors l'huile d'olive, ce qui est bon dans l'huile d'olive, ce qu'on sait, c'est que c'est surtout sa pulpe végétale, c'est ce que disait l'ANSES. C'est pas tellement l'acide oléique, en fait, qui va être soit positif dans certaines études, soit négatif dans d'autres études, en fonction du mode de vie, en fait. Mmh. Et puis ensuite, vous avez certaines huiles qui ont été, dans le passé, recommandées pour faire baisser le cholestérol. Je veux penser, par exemple, au pépin de raisin, l'huile de pépin de raisin, qui est une huile très, très riche en oméga-6, ainsi que l'huile de tournesol et l'huile de maïs aussi. Donc ces trois huiles-là, je les déconseille, puisqu'elles sont très riches en oméga-6. Et les deux huiles que je favorise, c'est l'huile d'olive, vierge, première pression à froid, bio, et puis l'huile de colza.
François nous dit ceci, par quoi remplacez-vous le poisson dont vous avez parlé tout à l'heure, Michel de Lorgeril ?
Alors ça, c'est une question compliquée. Ça veut pas, il ne faut pas complètement remplacer le poisson. Bah, par contre, il faut être très sélectif. Alors, si on a la chance d'être à proximité de fermes en eau douce, par exemple la truite, évidemment, ça sera de la truite bio, on peut en manger, disons, une fois par semaine. On peut aussi manger quelques poissons gras des mers, mais plutôt les petits, hein, les maquereaux, les sardines, c'est ceux qui seront les moins contaminés. Et puis, il faut essayer de fabriquer nous-mêmes les acides gras oméga 3, les fameux marins qui nous sont apportés par les poissons.
Et on fait comment ?
Ça, c'est des travaux qui sont conduits dans mon labo à Grenoble. On montre très bien que les polyphénols, certains polyphénols, en tout cas, par exemple les polyphénols du raisin, les anthocyanines, ou bien les polyphénols du seigle, hein, les lignanes, quand vous les absorbez et si vous avez une flore intestinale adéquate, alors ils vont stimuler la synthèse endogène des oméga 3 dits marins. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, pour se substituer au filet de poisson gras trois fois par semaine, il y a plusieurs stratégies possibles. Et vous voyez que je viens de parler du microbiote intestinal. Ça, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est la biodiversité qui nous habite.
Il y a beaucoup de recherches dans le domaine maintenant.
Il y a beaucoup de recherches et il faut surtout protéger notre microbiote intestinal. Parce que c'est à la fois la biodiversité qui nous habite et qui nous protège.
Sylvain Duval, les céréales au petit déjeuner, oui ou non ?
Alors là, vraiment, c'est un grand non. Les céréales, ce sont des bonbons, la plupart du temps. Les céréales, en tout cas destinées aux enfants, pour être précis, très souvent elles sont grasses, elles sont très sucrées et... Vraiment, les enfants les aiment autant que des bonbons Haribo ou d'autres marques de bonbons. C'est des confiseries pour les mamans. Et il y a des belles allégations sur les boîtes qui vont dire que c'est riche en fer, en magnésium, etc. C'est très trompeur.
Édouard, on dit que le thé vert réduit les risques de cancer. Qu'en est-il ? Et est-ce qu'on retrouve le thé dans le régime méditerranéen ?
Alors oui, bien sûr, le thé est une des boissons méditerranéennes classiques, bien que le thé ne pousse pas dans la zone méditerranéenne. Hein, c'est vraiment un produit d'importation. Ceci dit, le thé, c'est quoi ? Ce sont des polyphénols plus de l'eau. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a un peu de caféine, mais pas beaucoup. Et donc, il ne faut pas croire qu'on peut manger n'importe quoi et puis ensuite boire une tasse de thé pour se protéger. C'est à nouveau le modèle dans sa globalité qui est protecteur. Par exemple, pour ceux qui sont anti-alcooliques ou qui n'aiment pas l'alcool, le thé peut être un très bon substitut parce que les polyphénols du thé ressemblent un petit peu. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ils ressemblent un petit peu aux polyphénols du vin.
Sylvain Duval, la crème fraîche, trop riche pour un régime ou pas ? Parce qu'on la retrouve dans le régime méditerranéen quand même de temps en temps, non ?
Non, la crème fraîche ne fait pas partie du régime méditerranéen, mais bon, ça fait partie de nos habitudes françaises. C'est l'un des corps gras les moins gras, justement, et on peut en mettre un petit peu de temps en temps pour le plaisir. On n'est pas là pour bannir des aliments, mais pour essayer de moderniser le régime méditerranéen, pour se rapprocher des choses qui sont sûres au niveau scientifique.
Ouais. Lait de vache ou lait de chèvre ou de brebis ?
Alors en général, les gens qui sont proches de l'industrie laitière disent que le lait de vache c'est meilleur ou qu'il n'y a pas de différence. Non, les profils lipidiques sont vraiment très très différents et on peut dire que le lait de brebis et le lait de chèvre sont plus intéressants au niveau humain, enfin pour l'alimentation.
Ouais. Michel de Lorgeril, donc vous nous confirmez, ce régime méditerranéen est toujours valable aujourd'hui.
Bien sûr, il faut l'adapter, il faut le moderniser à notre époque.
Le confirme.
Oui, tout à fait.
Effectivement, c'est l'objet de votre livre, Nouveau régime méditerranéen aux éditions Terre Vivante. Et puis Sylvain Duval, Le guide des aliments contre les idées reçues, un livre 100% indépendant qui est publié aux éditions du Cherche Midi, qui est épuisé, mais vous allez
en rééditer
très très vite. Ça marche bien. Merci beaucoup à tous les deux pour vos conseils.
Mathieu.